Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ou comme j'aime à dire, Moreo Annegosaya. C'est l'heure est grave et on se retrouve cette semaine encore pour parler pellicule, grand écran, popcorn et gros plan avec le monstre marin de mes rêves, Raphaël. Bonsoir Raphaël.
Bonsoir.
Et la reine des blattes, devenue l'impératrice des égouts et des zones humides, Cécile. Bonsoir Cécile.
Bonsoir à tous.
Mon cher.
Cette semaine, on parle cinéma, et plus précisément du film sud-coréen The Host, écrit et réalisé en 2006 par Bong Joon-ho. Bong Joon-ho, né à Séoul en 1969, après des études de sociologie à l'université de Yonsei. Il entre à la Korean Academy Film of Art, CAFA, la plus grande école de cinéma sud-coréenne. Il réalise un premier long-métrage en 2000, qui le révèle à l'industrie cinématographique coréenne. Il connaît ensuite un énorme succès public et critique, mais là, au niveau international, avec l'adaptation d'une pièce qui avait un énorme succès public et critique.
Sur la pêche à la ligne.
Pas du tout. Memories of Murder, en 2003.
Un thriller.
Toi aussi, tu parles sud-coréen un petit peu. Il enchaîne 3 ans plus tard avec le film de ce soir, The Host, qui dépasse largement cette fois-ci les frontières de son pays, puisqu'il devient le plus grand, déjà, succès de toute l'histoire du cinéma coréen, mais il devient un énorme succès au niveau international. Ouais, et ensuite, son film Mother, en 2009, qui est présenté à Cannes.
Mother?
Et alors... Ah oui, non. pas celui-là.
C'est pas le même.
Il n'y a pas le point d'exclamation.
En 2013, il réalise son premier film en anglais, l'adaptation de la BD française Snowpiercer. Je parle très mal sud-coréen.
C'était
de lui. Ah, tu parles. C'était lui qui avait adapté Snowpiercer, ouais.
Captain America.
Et vous avez sans doute entendu parler de lui cette année, puisqu'il a réalisé Okta, ce joli film sud-coréen-américano.
Polémique.
Qui a été fait polémique. Et en effet, Cécile, merci de me relancer.
Alors pourquoi fait-il polémique, Cécile?
Parce qu'il est sorti sur Netflix. Et qu'il était sélectionné au Festival de Cannes.
En compétition, oui, tout à fait.
Et ça, c'est dégueulasse.
Il est avec Park Chan-wook, le meilleur représentant de cette nouvelle vague coréenne des années 2000, avec des films très noirs qui n'hésitent pourtant jamais à flirter avec l'humour et le grotesque, et qui ont enchaîné, dans les années 2000, du coup, un nombre incalculable de films cultes, au sommet desquels on peut placer le Old Boy de Park Chan-wook, et, à mon avis,
The Host. À la plage. Il est vachement bien.
Tu parles d'autres films asiatiques, Raphaël, et là, c'est
Pardon.
Il y a des monstres visqueux, mais c'est,
ouais, c'est pas ça.
Ils sont vachement bien. Et donc The Host, le film de ce soir, qui est sorti en France le 22 novembre 2006. Et alors là, pour la petite histoire, il est sorti en même temps que Borat. Alors je sais pas si les films sont liés, s'il faut voir l'un avant l'autre ou l'autre après l'autre.
Mais il a pas eu beaucoup de succès en France, non?
Il a fait
100 000 entrées.
Tu enchaînes les relances, merci Cécile. il a fait à peine 150 000 entrées, ce qui est assez peu. Mmh. Mais je tiens à préciser que c'est quand même
en tout, c'était 13
millions, le plus grand succès de toute l'histoire du cinéma coréen.
Bah c'est toujours 150 000 entrées de plus que ZZ à la plage. Qui avait toujours vraiment un flop pour le coup.
The Host est un film que j'adore, un film de monstres, une charge anti-américaine, et ça va te plaire mon poteau. Une course poursuite, une comédie burlesque, un film écolo, un conte familial, un film d'aventure, bref, il y a tellement de trucs que je ne peux pas tout réduire en une seule phrase. Mais en tout cas, ça m'invite à me poser une question. Vous en avez pensé quoi, vous?
J'ai beaucoup aimé. Ça m'a beaucoup diverti déjà, et j'ai trouvé qu'il y avait plein de rebondissements, que ça m'a fait beaucoup penser à Miyazaki.
Bon Django.
Bon, ça fait penser à Miyazaki,
ouais,
un autre coréen japonais.
C'est pas faux, moi je pense que c'est les musiques qui me...
On sait pas exactement dans quel genre c'est, et puis il y a des sortes de créatures bizarres.
Écoute, moi ça m'a bien plu aussi. Je suis pareil que vous, c'est très sympa à regarder. Je saurais pas trop comment le classer parce qu'il y a plein de trucs, il se passe plein de trucs dans ce film. C'est hyper divertissant, c'est sûr, et ça me fait un petit peu comme à chaque fois que je regarde un film asiatique, de manière générale. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les codes auxquels on est hyper habitué avec toutes les productions européennes ou américaines sont un petit peu bouleversés, quoi. C'est pas la même manière. Moi, ce qui me...
C'est-à-dire que c'est pas la même mayonnaise.
C'est pas la même mayonnaise, c'est pas les mêmes acteurs, déjà, ça.
Oui.
Non, mais les gens ont une manière de se parler, les rapports sociaux. C'est que j'ai l'impression de voir quelque chose que j'ai jamais vu avant. Et c'est hyper agréable, du coup, parce que c'est... Voilà, je me fais vraiment une bouffée d'air fraîche avec ce genre de film. Donc ça m'a beaucoup plu.
C'est peut-être ça qui a fait remarquer, je pense, cette nouvelle vague coréenne. C'est parce que ces types sont venus proposer un truc complètement nouveau.
Je pense que si tout le monde a donné son avis, on peut attaquer le film avec grand plaisir.
Hajime !
Et le film s'ouvre le 9 février 2000 avec un joli prologue.
dans lequel il se passe quoi, Raphaël ?
Eh ben, dans lequel on va assister à quelque chose d'assez grave. C'est-à-dire que...
Est-ce que tu veux dire que l'heure est grave ?
Ah, je me souviens plus exactement dans ce qu'ils sont dans une sorte de... Eh ben alors, non, mais qu'est-ce que c'est ?
Ils sont dans une espèce de morgue. Alors,
c'est ça.
Non, mais c'est...
une espèce de... En fait, ils sont dans une usine de production de formol, parce qu'en fait, il va y avoir 15 000 bouteilles de formol.
Et du coup, il y a le gros blanc américain. Enfin, le vieux blanc américain.
Surtout qui dit qu'il y a de la poussière.
Qui dit qu'il y a de la poussière.
Et ça me touche beaucoup.
Rigide.
C'est pas propre.
Pour toutes les allergies. Et du coup, il dit aux gentils coréens de jeter tout le formol dans le fleuve.
Alors voilà, dans l'évier.
Dans l'évier, mais ça veut dire dans le fleuve. Le coréen, il a mais non, il n'y a pas le droit.
Ça va direct finir dans le fleuve Anne, c'est pas cool. Et il y a la réglementation, il dit... Je veux pas le savoir. Maintenant, tu diverses ça.
I don't care.
Et tu manges ton hamburger. Okay.
Hamburger. Maintenant, j'y vais. J'ai un concours de cowboy.
Putain de le coréen. Je sais pas quoi. Tu fais le truc de le mettre dans le fleuve.
Fucking Koreans.
On a un petit flash forward. On se retrouve en 2002. On voit deux pêcheurs.
Oh, j'adore. Il est trop beau le plan.
Ah, il est même. Ouais. Là, faut dire que le film s'ouvre avec une succession de petites vignettes.
Et c'est que, ouais, et c'est que des vignettes qui sont très sombres.
Et drôles aussi. C'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il y a quand même un peu d'humour.
Bah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avec les deux pêcheurs?
Il y a deux pêcheurs. Des pêches à la mouche, je te disais qu'il avait fait un truc dessus.
Toujours.
Et du coup, il y a deux petits pêcheurs à la mouche dans le fleuve Anne. Et là, t'en as un qui veut boire une petite tasse du fleuve Anne. Non, mais il a une petite tasse. Et il y a une espèce de mutant dans sa tasse. Donc, on suppose que c'est une espèce de tétard un peu chelou. Mmh. Il le montre à l'autre. Et l'autre est un peu genre, ouh, qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Le fleuve est pollué. Bon, et il le rejette à la flotte. On devine du coup qu'il y a un truc un peu chelou qui naît dans ce fleuve Anne.
Tellement chelou qu'on se retrouve 4 ans après. Avec un homme qui s'apprête à se jeter d'un pont. Ah oui, deux amis qui arrivent en...
désespéré.
C'est ça.
Ça, culturellement, c'est très sud-coréen, le suicide. Hein, de...
C'est à cause des Américains.
Pardon, je connaissais un sud-coréen.
Qui s'est suicidé.
Non.
Énorme.
Non, mais qui faisait...
Vous êtes bien sur leur grave.
C'était un pote sud-coréen et il avait fait, quand il était en Corée du Sud, une apparition dans un truc genre Plus belle la vie, mais en Corée du Sud. Et son seul rôle, c'était d'essayer de se suicider.
Bah, s'il rate à chaque fois, c'est un grand arc.
Hein. Il se rate, c'est le
personnage. Sauf que là, le personnage ne va pas se rater, et avant de se jeter dans le fleuve Han, il dit qu'il aperçoit une sorte de forme immense et noire qui tapit au fond de l'eau.
Je crois que c'est pas une métaphore un peu douteuse.
Je sais
pour
pas.
La mort.
En tout cas, il se jette dans l'eau, et là, il y a un plan absolument magnifique où on voit, il tombe au ralenti avec la pluie.
Geronimo!
Et là, on découvre un petit snack sur les bords du fleuve Han. Qui tient ce petit snack?
C'est ça que c'est étonnant. Du coup, là, on avait les trois vignettes qui étaient très sombres et tout, archi graves et tout. Et là, on a plein de couleurs avec tous les petits papiers.
De bonbons.
De bonbons et tout, des trucs comme ça. Et ben, c'est le héros.
Gangdu, qui s'appelle. Il s'appelle Gangdu, le héros.
Park Gangdu.
Ah, parce que oui, il faut savoir que les Coréens placent les noms de famille avant.
Ouais.
Donc en fait, ils s'appellent tous Park quelque chose parce qu'en fait, c'est leur nom de famille.
Donc spoiler alert, Kim Jong-un s'appelle en fait Jong-un Kim.
Voilà. Exactement.
Et c'est Kim, son nom de famille.
Et bon, Jung-ho, c'est Jung-ho
Bong. C'est
bang,
ça.
Bang. Et du coup, bah, Gangdu, il tient. Son père tient ce petit snack et lui travaille avec son père, mais on a l'impression que c'est un peu un glandeur. Le mec dort pendant son service. Il va commencer à shipper de la bouffe qu'il est censé servir à des gens, etc. Et il attend
sa fille.
Voilà. Le retour de l'école.
Parce qu'on sent qu'il y a que sa fille qui le réveille. Quand sa fille est pas là, il dort, il somnole.
On sent qu'il est un peu simplé aussi.
Ouais. Il a l'air un peu bébête. On apprendra plus tard pourquoi il est bébête, mais sa fille rentre de l'école. Et elle se dépêche de rentrer dans le snack pour regarder la télé, parce que qu'est-ce qui se passe à la télé cet après-midi?
C'est le sport.
C'est les jeux de Pyeongchang. Ouais.
Exactement. Ouais.
Non, mais c'est le sport. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce?
Eh ben, en fait, c'est Tata. Donc, c'est la sœur de Gangdu, qui est championne de tir à l'arc. Et ben, en fait, au moment de tirer en dernier, elle est trop lente pour viser. Et du coup, ça va lui coûter, en fait, sa médaille d'or. Et du coup, elle va avoir la médaille de bronze.
Voilà. Parce que, alors, d'abord, excuse-moi, la petite rentre de l'école, elle pose son sac. Et là, le papa, évidemment, ce qu'il lui dit, est-ce que tu veux une bière?
Ah oui.
Et il lui dit, moi, à ton âge, au collège, bon, j'étais déjà à l'héro, espèce de petite tarlouse, tu veux pas une bière pour commencer? Donc, il lui sert une bonne mousse bien fraîche.
Et alors que Pépé et la fille sont en train de s'ouvrir une bière, du coup, et de l'héro, on est en train de regarder Tata.
Et donne quoi, Tata, là, à la télé?
Gangdu, lui, il sort pour apporter un plateau à la table numéro 4. Et puis en fait, il voit qu'il y a un petit attroupement près du fleuve parce que il y a quelque chose qui pend là sous le pont.
Les attroupements de Coréens, c'est hyper. Et
là, il arrive sur les bords et en fait, on voit d'un coup tout le monstre qui
vient direct.
Et
c'est génial.
Ça, c'est une idée de dingue parce que c'est fini les Dents de la Mer où on va passer le film entier à attendre l'apparition du monstre en pleine nuit.
là, il est 14h, ouais. C'est en plein jour, et le monstre, il pend du
mais c'est
du,
quand même
pont,
bien
quoi.
Ménagé, le suspense, parce qu'il y a vraiment un... Le plan, il fait en sorte que vraiment, on est à deux doigts du monstre.
C'est ça.
On y arrive tout doucement quand même. Et après, bim, on arrive tout de suite sur lui.
Mais ça, c'est hyper... Moi, ça m'a vraiment marqué. C'est pour ça que je disais que j'aime beaucoup les films asiatiques qui renversent les codes. Parce que voilà, un film, un thriller américain même hyper bien fait. En effet, ce monstre, ils ont attendu le dernier moment pour que tu vois. Parce que c'est hyper intéressant aussi de faire monter la pression et de faire monter la peur.
Surtout
hyper
que
violente,
quand
et à quoi
le
ça
voit, il est en mode dodo. Enfin, il est pas en mode...
Eux, ils sont
scared de sauter dessus.
Ils sont pas du tout en mode inquiet. C'est-à-dire que la bête plonge dans l'eau. Et il se dit, c'est trop drôle, oh on va lui jeter des canettes à la gueule. Et il commence à lui jeter des trucs.
Et ça, parce que t'en as un qui jette un truc, il gobe, et les autres font, ils se mettent à jeter des poubelles, et c'est genre, allez, mon gars.
Et donc, ça fait penser aux Simpsons. Enfin, déjà, le truc du fleuve et tout, pour moi, c'était vraiment les Simpsons. Enfin.
Le monstre attrape les trucs, et puis, ils retournent au fond de l'eau. Les badauds commencent à repartir dans leur coin. Et sauf que là, d'un coup, il y a un plan à nouveau génial. Contre-champ, on voit que la bête, elle est sortie de l'eau 60 mètres plus loin. Et qu'elle arrive tout doucement vers eux pour les attaquer. Ouais. Et là, c'est le dawa, comme on dit.
Est-ce qu'on peut faire un point, le look de la bête?
Alors oui,
Par contre, vas-y, va décrire ça.
Non, mais oui, non, va décrire ça, pourquoi? Parce
que c'est... Une sorte de bouche de calamar.
Ouais. Sur des pattes de T-Rex.
Avec des tentacules.
Sur des pattes de T-Rex, avec en fait un poisson, quoi.
Et en fait, comme si elle avait un gros casque de poisson. Ouais.
La bête, elle est sortie, elle se met à attaquer tout le monde. Et tout le monde part, n'importe dans quel sens. Il y a un truc qui est très bizarre. Tout le monde se met à courir dans le même sens que la bête. Vous avez remarqué que...
j'ai trouvé ça très bizarre.
C'est très très bête. Ils se mettent tous à courir dans le même sens qu'elle.
C'est bête de poursuivre la bête.
Oh.
Oui, et alors, en plus, on sait qu'elle vit dans l'eau, et t'en as la moitié qui te jette à la flotte.
Tu la suis pas, tu vas clairement dans le sens inverse. Elle commence à attaquer tout le monde, et là, il y a un gentil américain qui se dit que c'est son moment, qu'il faut qu'il sauve tout le monde. Il s'appelle Donald White.
Donald White.
Et il y a Gangdu qui passe à côté, et il
dit... Je suis le général John Smith de l'armée américaine des États-Unis. Je suis un stéréotype plutôt musclé et qui a besoin de sauver tout le monde.
Ils se disent qu'ils vont péter la gueule au monstre qui est en train de bouffer la moitié des gens qu'ils croisent. Ils arrivent plus ou moins à la mocher, mais ils se font quand même... Donald White, il se fait bien choper par le monstre.
De la scène du bus, là. Enfin, c'est un
bus. C'est ça. Non, ils rentrent dans une sorte de caravane.
Une sorte de caravane, ouais. Et après, il y a toutes leurs mains qui sortent comme... Ouais. C'est vraiment un film de zombies, là. C'est assez hallucinant. D'ailleurs, il y a une meuf qui voulait rentrer dans le truc pour se protéger. Elle a pas pu rentrer, finalement, heureusement, parce qu'elle a pété la fleur, un gros massacre.
Sauf que là, il y a vraiment une super idée pour, enfin, je trouve que c'est une scène qui montre très bien le mélange des genres, parce que, en même temps, elle est hyper violente et avec ces trucs comme ça.
En même temps, c'est atroce, en même temps, ça passe.
Il y a des moments très drôles, avec notamment cette fille qui est en train d'écouter la musique et qui voit pas la scène et qui se fait choper. Ou alors, il y a un plan du métro aérien avec la petite musique de la RATP.
Et alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il va y avoir quand même un peu un élément dramatique pour ce film.
Attends, mais déjà, il faut dire qu'il arrive à amocher un peu la bête et qu'il se prend du sang sur la gueule.
Ah oui, c'est vrai.
Et là, il se dit surtout, mais merde, où est ma fille, quoi? Parce que la bête retourne vers le snack.
Et là, il
se
dit, si je bouffais le sang, donc il se laisse, il lèche les mains, quoi.
Et donc du coup, il se demande où est sa fille et il va la chercher près du snack. Il lui prend la main, il court, sauf qu'il glisse et que les deux tombent. Et que, en se relevant, il prend la main de ce qu'il croit être sa fille, et en fait, c'est notre petite fille, et il se trouve.
J'ai trouvé un peu drôle, c'est ça, parce que t'as la caméra,
qu'elle est trop chum, l'autre petite fille.
C'est ça.
Elle a des vieilles lunettes et tout, genre, ah, du coup, t'es qui, toi?
C'est genre la blague,
Et là, c'est le drame. Han Se-woo, la petite fille, elle se fait choper par le monstre, qui l'emmène avec elle et disparaît dans les flots.
Ta-ta-ta-ta.
Transition, on les retrouve tous parqués dans un gymnase avec l'armée qui commence à leur expliquer qu'ils ont tous été contaminés, que c'est très très grave et que on refuse de leur dire ce qui s'est passé. Toute la famille arrive, le grand-père, Gangdu, sa sœur, son frère.
Ça, c'est trop drôle.
Et arrive un type en jaune avec une combinaison jaune qui commence à dire.
Excusez-moi, est-ce qu'il y en a qui ont été en contact avec la bête?
Oui, moi.
J'en ai dans la bouche, là, regardez.
Il explique très clairement qu'on lui a craché du sang à la gueule.
Si vous voulez, je peux vous refaire ce que ça faisait.
Ce qui est une très bonne idée, c'est qu'il finit du coup dans un sac d'isolement et on l'amène tous à l'hôpital. Où, bizarrement, enfin, il n'y a pas l'air d'avoir des grandes mesures d'hygiène qui sont prises puisque Gongduk est censé être contaminé par le sang de la bête, se balade au milieu de tous les autres patients. Et là, surtout, il se passe qu'il reçoit un appel sur son téléphone. Han Se-woo, sa fille, elle est pas morte. Elle lui dit,
je suis dans un large égout.
Elle est dans un égout.
Le correspondant que vous avez
essayé. Et qu'il faut vite qu'ils viennent la chercher. Sauf que là, on leur dit que ça va pas être possible, ils peuvent pas quitter l'hôpital, donc ils ont une idée de génie. Et ben, ils vont s'enfuir.
Excusez-moi! Arrêtez-vous, le monsieur aux cheveux jaunes!
Poussez-vous!
Attrapez-les!
Laissez-moi passer! On y est dans une minute, on est dans l'ascenseur, on descend. Où ils sont? B4 à 3. C'est quoi l'emplacement?
B4 à 3. A3, c'est où?
C'est là. A3, c'est par là.
Où elle est?
Où elle est passée?
Où elle est?
Où elle est?
Oh merde!
Là, où là? Où ça? Où ça? Où ça?
Là-bas! Quel abruti! C'est pas...
C'est votre seule sœur! Comment avez-vous pu l'oublier? Oubliez votre petite sœur!
Ça va, on va la récupérer!
Et attirer!
La famille Park s'est donc bien échappée. Ils peuvent enfin infiltrer la zone contaminée.
Ils y vont dans un truc de désinfectant. Et là,
c'est ça, on aurait dit
le garde.
Peu...
Ils doivent soudoyer le mec. Il fait, allez, monsieur. Tu sais, il les reconnaît. Fait, allez, monsieur Park, montrez-moi une cuisse.
Passez. Mais on dirait un peu Bibi et Coyote. Tu sais, tu vois, les mecs, ils ont essayé d'acheter un truc.
Oui, et puis c'est de la merde, quoi. Acme.
Acme, voilà. Qui est un peu nul.
Ils arrivent à rentrer dans la zone contaminée et se mettent à fouiller dans les égouts. Ils cherchent Yonsei. Ils la trouvent pas, sans succès. On switch. Et là, c'est assez surprenant parce que d'un coup, on avait toujours été du point de vue de la famille Park. On passe sur deux petits gamins qui se mettent à errer seuls dans la ville et en fait, qui cherchent désespérément de la bouffe. Et ils voient le snack abandonné. Ils décident de rentrer dedans parce que
snack des parcs.
Tous les enfants, en tout cas en Corée, ont un droit primordial, c'est celui de... Ils ont le droit de voler de la bouffe quand ils ont faim.
C'est horrible.
Ils rentrent dans le snack, ils disent non, on vole pas l'argent, on vole juste la bouffe. Ils ressortent et là...
Ils sont attaqués par le monstre.
On sait pas trop ce qui leur arrive. On re-switch toute la famille Park, qui cette fois-ci, à son tour, rentre dans le snack, commence à se taper à bouffer, et puis ils ont une sorte de petite alu collective, puisqu'ils voient tous Yann oh. Se...
Ouais, vachement bien, ton ténouille instantané, là.
Yann Se qui vient manger avec eux.
À ce moment-là, le truc avec le fantôme et la bouffe, qui est assez marrant, c'est que tous, ils se mettent plus à manger, mais à donner à manger au fantôme, un petit peu comme si le fait que eux mangeaient redonnait des forces à Young Gochu, ta petite fille Park, là, je sais plus comment elle s'appelle. Mais donc, il y a tout un truc autour de la bouffe, ça, c'est sûr.
Non, mais c'est pour ça que ça me faisait penser à Miyazaki. Parce que Miyazaki, il y a aussi tout un truc autour de la bouffe dans ses films. Et c'est surtout la manière dont la bouffe est présentée. C'est en même temps, t'as plein de trucs et tout, t'as envie de manger, mais en même temps, il y a un truc archi obscène. C'est de la bouffe un peu bizarre. Et du coup, ça rend le rapport à la bouffe assez spécial.
Ils font plein de bruit, c'est toujours le...
Des... Et puis en fait, c'est juste que le truc, enfin, le principe du monstre, c'est quand même de manger les gens et les recracher. Déjà là, on est sur une boulimie. Et d'ailleurs, juste après, le monstre va recracher les deux petits qui avaient volé la bouffe dans les égouts avec Anso. Et justement, là, ça m'a encore fait penser à Miyazaki. Parce que le monstre, en fait, c'est comme le sans-visage dans Chihiro.
Ouais.
Il recrache exactement de la même manière,
ouais,
en fait.
Les trucs qui ressortent intacts, en fait.
Ouais. Et avec, tu sais, un peu visqueux, etc.
Alors, intact, je n'irai pas jusque-là, puisqu'il y a un des deux frères qui est quand même mort.
Ouais, il a mal supporté.
Peut-être qu'il était mort avant.
Et du coup, c'est cool parce que Anso va pouvoir avoir à manger, vu que leur sac était plein de bouffe. Merci.
Ah, j'ai cru que t'es là, parce qu'elle va pouvoir manger le grand frère qui est mort.
Du coup.
Yes, I.
Non, elle va surtout d'un coup tout de suite prendre le petit garçon qui est plus jeune qu'elle sous son aile.
Elle va lui faire des...
Non. Et elle va s'en occuper. Il est comme une sorte
de... J'ai bu
de
la bière.
De relents d'instinct maternel. Elle s'occupe de lui. Et pendant ce temps-là, on re-go back to the snack, où là, le père explique, non, mais on est en train de parler de bouffe. Il va quand même expliquer que si Gangdu, il est pas très malin, il explique ça à ses deux autres, à son frère et sa sœur pendant que Gangdu dort. Il dit, si votre frère, il est pas très malin, c'est pour une raison très particulière.
Bah, c'est qu'il a eu un petit manque de protéines quand il était enfant, hein, parce qu'il a un peu manqué. Et du coup, il disait, il était très intelligent quand il était petit, puis en fait, c'est un peu disparu parce qu'il a manqué de nourriture pour se développer.
Mais après aussi que Daron était pas très sympa avec lui, et
ouais,
que
ça,
Daron
allait lui retirer la bouffe pour qu'il soit idiot.
C'est moi qui l'ai introduit à la bière. Et depuis, il a introduit sa fille. Avec. Mais alors, du coup, là, c'est un petit peu un moment clé, puisque qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'aperçoit le grand-père Park?
Le monstre est là.
C'est fort ce moment, on s'y attend pas ou pas?
Le monstre est juste dehors, en fait, d'un coup.
Donc là,
il se dit,
il est 4h du matin, tout le monde dort, le monstre ne m'a pas vu. Quelle est la meilleure idée? On va lui tirer dessus au fusil à pompe.
Décharge de forain dans la bouche, mon pote.
Sauf que le monstre, ça lui plaît pas des masses, quoi. Il se retourne, et là, on se retrouve en 1 contre 3, puisque t'as les en fait, le Gangdu, son frère et son père qui sortent avec chacun des armes pour abattre le monstre. Ils y arrivent pas. Gangdu passe son flingue à son père, lui disant « Il reste encore une munition dedans, tu as le temps. » Son père se retrouve seul face à la bête. Et en fait, Gangdu, bah, il s'est trompé, il y avait plus de balles.
Oh. Papa.
Et avant de mourir, le grand-père attend son tour. « Mais quel petit temps qu'il a là !»
Et le grand-père se fait d'un coup, bah, en fait, renversé, mais hyper violemment par la bête. Puis ensuite, elle se fait plus ou moins tracter. Exactement.
T'as pas de garrot, monsieur.
Et non, mais est-ce qu'on parlerait pas un peu d'un concept auquel tu nous as tous initié ici, Cécile, qui est l'ironie tragique?
Le bon gros touch de cité.
Ouais.
Entre autres. Non, mais qu'est-ce que c'est que l'ironie tragique de Gangdu?
De Gangdu.
Bah, notamment.
Dans le cas de Gangdu et de Oedipe, par exemple. En fait, c'est le héros qui veut tout faire pour s'en sortir, mais qui, sans faire exprès, va toujours aller plus proche de son destin, en fait. De son destin fatal. Donc, c'est-à-dire que, il essaye de faire en sorte que le monstre meure grâce à lui, pour que son père utilise l'arme contre le monstre. Sauf qu'en fait, bah, non.
Il tue son père, comme au début, il a voulu sauver.
Du coup, il va tuer son père, et comme au début, il a voulu tuer sa fille, en fait, il s'est trompé.
Il a voulu sauver sa fille.
Sauver sa fille.
Elle ouvre ma gamine!
Du coup.
Ah, je vais me la faire!
C'est pour ça qu'il lui donne une bière.
Du coup, il a sauvé.
Ça peut pas te faire de mal.
Prends les médocs sur la table.
Tu sais ce que tu me coûtes en école privée, putain.
Ouais, donc en gros, c'est le mec qui veut s'en sortir, mais qui fait tout le contraire sans faire exprès, quoi.
Et du coup, bah, Gangdu, à nouveau, face à son destin, alors que son frère et sa sœur se barrent, se retrouve arrêté par les flics devant le cadavre de son père. On a un petit switch avec une info télé, grâce à laquelle on apprend la mort de Donald White, le meilleur ami de Raphaël. On dit qu'il a été contaminé par le virus, que son dos a été tacheté de pustules, que c'était dégueulasse, et du coup que le virus est en train d'envahir la Corée.
By the way, Gangdu va très bien.
Il y a un petit truc. Il dit que ça le gratte, mais pas plus que ça. A vite oublié qu'il était contaminé. On apprend du coup que c'est les États-Unis qui vont gérer cette crise, comme ils aiment tant le faire. S'apprêtent à répandre, alors attention, petite blague, l'agent jaune, qui est un produit chimique qui est censé lutter contre le virus et qui va en fait détruire tout agent biologique sur un rayon de 10 km.
Et au départ, ça s'appelle pas comme ça normalement, le vrai.
Le vrai, c'est l'agent orange.
Orange, ouais. C'est ça.
Et t'as le présentateur qui, tu sais, il parle en coréen, puis là, d'un coup, il fait Yellow, déjà.
On retrouve le tonton qui a décidé de retrouver un de ses vieux amis d'université, qui est un peu
parce
gros.
Parce que les deux frères et sœurs sont sortis. Voilà.
Ils se sont barrés. Il retrouve son vieil ami d'université qui lui dit, mais moi, je peux très facilement géolocaliser l'appel de ta nièce. On va tout de suite savoir où aller, ou dans quel égout aller.
Et du coup, ils vont dans la société de ce type, il lui dit « Ah, tu entres le numéro là, ça va le faire, écoute, moi je vais chercher un soda dans la pièce d'à côté. » Du coup, t'as superbe travelling, et là tu découvres dans la pièce qu'en fait le copain de fac trahit le frère.
À appeler les flics, quoi.
Voilà, à appeler les flics, parce que donc la famille Park, comme ils sont contaminés, elle est recherchée un peu comme toutes les personnes contaminées qui ont réussi à
s'enfuir. Du coup, il y a un prix sur leur tête, quoi.
Un prix sur leur tête. Et du coup, juste le temps de s'enfuir, d'échapper au keuf, non sans lâcher un petit fuck the police avant de partir.
Et puis surtout, en ayant quand même réussi à géolocaliser, du coup, l'appel.
Exactement. Et là, qu'est-ce qu'il va faire, justement? Il va avoir le temps de transmettre très rapidement
l'information à sa sœur.
Et à son frère également. Parce que Glandu, du coup, a été chopé par les keufs.
Ouais.
Il est dans le, il est aux mains du gouvernement.
Ouais.
Et il a quand même encore son portable avec
lui. Ah oui, d'accord.
Juste avant d'être,
torturé
un peu par
bordel.
Le gouvernement. Il a le temps de, oui, ma fille, attendez, c'est le plot twist, bougez pas!
Et on voit que la tante vient de recevoir le message et se met en recherche pour retrouver sa nièce. Elle parcourt un peu tous les égouts.
Et oui, justement, je voulais dire un truc par rapport aux frères et sœurs. Enfin, dans le film, que je...
Non, en général. C'est quoi un frère et une sœur?
Non, mais au sens, enfin, que les trois frères et sœurs que...
C'est un connard qui t'emmerde quand t'es tranquille.
Merci, Raph. Non, mais que je trouve c'est assez, je trouvais ça assez original la manière dont ils traitent le rapport entre les frères et sœurs, parce que souvent quand t'as des frères et sœurs, c'est souvent des, qu'est-ce qui les sépare?
Connard, vas-y, c'est bon, tu reprends ta phrase.
Tu sais, qu'est-ce qui les sépare, qu'est-ce que les rivalités qu'il y a entre eux, etc. Alors qu'en fait, là, ils sont juste voués à une même cause et on s'en fout de savoir leur lien, enfin vraiment.
Ils ont chacun
des différences qui leur sont propres.
C'est autant de chances que sont nos différences, voilà. C'est la chanson inclusive.
Enfin bref, du coup, je trouve ça assez original qu'on s'attarde pas, par exemple, sur un conflit, tu vois, frère-sœur, etc. Et qu'au contraire, ils s'unissaient pour...
Ils sont même cause.
La nièce.
Ils sont tellement unis, en fait, que bah, si le frère et le père ont été attaqués par le monstre, il n'y a pas de raison qu'elle ne se fasse pas également attaquer par le monstre. Et du coup, elle se fait attaquer par le monstre. Et elle finit au fond d'un trou.
Pas le même que
Hong So. Non, évidemment, elle tombe dans un autre trou parce qu'il fallait qu'elle fasse tout différent que les autres.
Elle fait une roulade avant, ma foi, très bien exécutée, dans laquelle elle tombe dans un fossé. Mais du coup, voilà, donc, on a un petit peu vu ce qui se passait chez les frères et sœurs. Glandu, lui, ça se passe pas très bien, comme je disais, de son côté.
Bah, pas, t- très bien puisqu'il est à l'hôpital entouré de médecins. Il commence à recevoir l'appel, on lui dit que sa fille est en vie. Et surtout, il tend l'autre oreille et il voit un médecin qui a un petit problème d'yeux. Qui commence
américain.
À être
américain.
C'est une sorte de docteur fol-amour machiavélique.
Complètement fou. Et qui commence à expliquer à un autre médecin coréen. Bah, en fait, non, il n'y a pas de virus. Évidemment qu'il n'y a pas de virus. Il n'y a jamais eu de virus. Je vous le dis entre nous, mais en fait, on fait tout ça pour pouvoir gérer le truc.
Et tester l'arme
et
jaune.
Tester, voilà, l'arme jaune. C'est une sorte à nouveau de petit scud que place Bong Joon-ho pour les Américains qu'il n'a pas l'air de porter dans son cœur. Gangdu entend ça. Et il est en mode genre, qu'est-ce que
What?
Vous allez faire? Mais enfin bon, on n'a pas le temps on n'a pas le temps de le laisser puisqu'il se fait en fait lobotomiser.
Voilà.
Hi-hi.
On retrouve.
On pourra faire ça à chaque fois qu'on dit lobotomiser.
Et on retrouve Yin Seo qui elle ne s'est pas faite lobotomiser.
Hi-hi.
Qui est en train de discuter avec le jeune garçon dans la tanière du monstre et qui se mettent ensemble à préparer
alors,
leur évasion.
T'aimes bien la bière ou...
Moi j'adore ça.
La bête revient et à nouveau déverse des litres et des litres d'os.
On sent qu'elle est pas au mieux de sa forme, quoi. C'est un
lendemain en gueule de bois, oui. Sauf que la bête, bah, en fait, elle a envie quand même pas mal de les bouffer, les gamins. Elle se jette sur eux, mais heureusement, ils sont cachés dans un petit renfoncement. Il n'y a pas de souci pour eux.
C'est vraiment Harry Potter, la chambre des secrets, quoi.
Ouais.
Enfin, un petit peu.
Mais
je
c'est
pense.
Exactement comme dans la chambre des secrets.
C'est
exactement.
Un film dont je me souviens pas trop, mais j'ai envie de dire oui.
Ils arrivent à skeplan dans
bah,
un
c'est
petit
c'est des canalisations.
Tout à fait.
Il y a une bête et il y a des os. Et ils sont dans un renfoncement.
Ouais. Et d'ailleurs, à un moment, il y a un petit mec sur un balai magique derrière.
Et il y a même un phénix et un choixpeau.
Gangdu se réveille et après s'être fait lobotomiser.
Yihi.
Bah, ça n'a pas l'air d'aller tout à fait mal.
Eh. Hey. Monsieur.
Regardez-moi tous. Couchez-vous. Tout le monde par terre, vite! Toi, le grand! Si tu ne baisses pas!
Je vous en supplie, non!
Vous aimez les virus? Je vais lui injecter! Tu restes debout, toi! Tu veux une dose de virus? Toi, là, au fond, ouvre les portes! Dépêche! Toi, bouge pas! Allez, ouvre! Ouvre! Les deux!
Il y a le virus!
Touchez-vous tous!
C'est lui!
Votre salon!
Touchez-vous!
Et quand tu as donc réussi à s'échapper avec une très bonne technique, faire croire que vous allez répandre le virus que vous pensez avoir sur tout le monde, il se barre dans les égouts pour vite chercher sa fille, mais en même temps on voit que le tonton, il s'est fait un nouveau copain.
Et oui, le tonton, il s'est fait un nouveau copain, c'est un monsieur qui vit dans la rue. Et avec lui, bah, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller renverser le gouvernement, faire des cocktails Molotov dans un taxi, qui a pas l'air plus choqué que ça.
Non, il commence à expliquer qu'il n'y a
alors,
pas de souci.
Vous jouez avec de l'essence derrière? Bon, écoutez, pas de problème. Faites gaffe parce que je fume une clope aussi.
Il faut expliquer ce qui se passe, c'est que le gouvernement, donc les Américains, pardon, vont relâcher leur fameux agent jaune et il y a toute une manifestation de pacifistes qui est en train de se regrouper autour de cet agent jaune en disant non à l'agent jaune.
Près du fleuve.
On retrouve Yan Seo au fond de sa tanière avec son gentil copain Petit Garçon.
Petit Garçon, je sais pas son nom. Petit Garçon avec un accent.
La bête dort. Et là, ils se disent...
Un gros roupillon.
On va tenter un move un peu risqué, quoi.
On va tenter un move un peu risqué. On a réussi à construire une sorte de d'échelle avec des vêtements. Je vais courir sur la bête. Je chope l'échelle. Et je m'en vais.
Par contre, elle laisse le petit... bah, les couilles.
Non, elle lui dit, je viens te chercher, tu bouges pas.
Ouais, bouge pas.
C'est ça, ouais.
Tiens, mets-toi là devant la bête.
Boulet.
Bah, vous croyez pas si bien dire.
Ça rate, hein.
Yan Seo, elle tente, elle saute. Elle
croit tellement en plus.
Elle chope l'échelle.
C'est beau ce truc.
Et puis, d'un coup,
ça fait vraiment effet cartoon parce que tu sais, elle est dans le vide et tu sais pas ce qui se passe.
Et là, et d'un coup, en fait, elle lâche l'échelle et en fait, elle tient sur place. Et nous, on a l'effet qui, enfin, la caméra qui recule et là, on découvre qu'en fait, la queue du monstre l'a attrapée.
Genre réflexe nocturne,
ouais,
genre grenouille, quoi.
Il la repose délicatement et elle peut plus bouger parce qu'elle sait qu'au moindre mouvement, la bête va se réveiller. Et elle dit au gamin, maintenant, tu rentres vite dans la tanière. Elle a à peine le temps de se retourner qu'en effet, la bête se retourne brusquement, se jette sur eux et au moment où elle va les croquer,
ça cote.
C'est la fin du film.
Et du coup, Gangdu arrive dans les égouts, il croise sa sœur qui est au fond, en train de sortir de son petit trou.
Au calme, il prend un petit roupillon.
Ils voient la bête arriver, ils vont lui tirer dessus, sauf que là, ils remarquent un petit détail, et pas des moindres. Qu'est-ce qui dépasse de la gueule de la bête ?
C'est le bras de Hank Sero.
Elle change de nom tous
les jours. Je sais pas comment ça se...
C'est le bras de la gamine, en fait, qui dépasse.
Ouais,
donc elle s'est faite croquer.
Elle s'est faite croquer.
Et du coup, là, ils veulent pas tirer parce qu'ils se disent peut-être qu'on va la blesser. Enfin bref, on comprend pourquoi ils ne tirent pas, parce que ça pourrait la blesser ou je sais pas quoi. Ils laissent la bête partir et ils se mettent à poursuivre la bête. La bête qui, elle, saute dans la flotte, traverse le pont et se dirige droit vers la manifestation. En même temps, Glandu, qui lui a un petit peu repéré les bails, voit la bête, court dans la même direction, donc ils vont tous se retrouver vers la manifestation. C'est un petit peu là le dénouement, bah, les
tout le monde se retrouve au même moment d'un coup, quoi.
Oui, il y a le frère aussi avec le cocktail Molotov qui est sur le pont et qui lui arrive en même temps aussi.
Et alors là, Gangju, il a un move assez bête, je trouve, c'est que il est en train de courir sur le pont qui a l'air de faire quand même 3 bons kilomètres. Et arrivé à la moitié, il se dit que en fait, il va y aller plus vite à la nage.
Et là, la bête se retourne et le bouffe. Et bah oui, évidemment.
Coup, là, il y a quand même un petit écho à la scène du début.
Exactement. Parce que là, en revanche, lui, c'est pour renaître. Et d'ailleurs, il y a peut-être un autre écho à la scène du début, c'est qu'on voit ce fameux agent jaune, qui est une sorte d'énorme boule jaune,
ah oui,
et qui ressemble en fait au monstre qui était pendu sous le pont. Ouais, exactement.
Donc là,
qui est le monstre?
Moi, j'avais plutôt l'idée que c'était juste un monstre hyper sympa qui faisait son petit Airbnb là dans les égouts, et que c'était un petit peu forceur sur la manière dont il amenait les gens à venir visiter.
Les babos qui manifestent contre l'agent jaune, bah, ils vont vite comprendre qu'ils auraient préféré être de droite, puisqu'en fait, qui apparaît et sort de l'eau?
C'est... La bête.
Ouais,
la bête.
Cousin, tranquille, vous avez des garros, s'il vous plaît. Hey. Ah, un jeune de banlieue.
Ils commencent à tous se barrer, le frère, la sœur et Gangju se retrouvent près de la bête, et là, l'agent jaune est relâché.
Vous êtes des sistras avec vos lacrymos, là.
En fait, faut imaginer une sorte de je sais pas, de comme du curry qu'on relâcherait, ouais. Et non, mais ça ressemble un peu à ça, quoi. C'est un énorme truc orange qui, d'un coup, pouf.
Ils ont invité Jean-Pierre Coff pour résoudre le problème avec la bête.
Mais oui, c'est
comme
la merde.
C'est comme une machine à fumer, mais jaune, quoi.
C'est un gros lacrymo, ouais.
Et en fait, ça a l'air d'être très puissant, puisque la bête s'effondre. Gangju a le temps de retirer de la bouche de la bête.
C'est-à-dire que déjà, la bête, qui était le fruit de formol dégueulasse, en plus, elle va mourir.
Enfin, pas encore.
Tu vois ce que je veux dire?
Ah oui,
non, mais déjà, sacrément attaqué par le truc. Elle va être encore plus affaiblie par un truc.
Gangju retire de la bouche du monstre sa fille, qui est en train de tenir dans ses bras le petit garçon. Ils sont tous les deux inanimés. Et en fait, on comprend rapidement que c'est trop tard pour la petite Tianzhu. Mais c'est pas trop tard pour le petit garçon. Et c'est pas trop tard non plus pour la bête, puisqu'elle se réveille. Et
il va falloir
se la taper. Un peu façon Link dans Zelda, il faut associer plusieurs trucs. Et il commence à se dire...
C'est là qu'on dit que tout le monde...
Tout le monde a des skills. Voilà.
Et tout le monde...
Y compris Clochard qui arrive.
Ce que j'ai dit, c'est qu'en fait,
il est complètement débranlé.
Il y a un autre...
pour tout le monde.
C'est là qu'il a dû se dire, tu sais, Bong Joon-ho, à la fin de son scénario, merde, il me manque un frère.
Bon, merde,
je vais mettre un Clochard. Ouais.
Et toi, là, tu veux jouer?
J'ai quoi? C'est un film? Ouais, ok, mon gars. Paye-moi en bibine et je suis d'accord.
Et en fait, il a failli la boire à un moment, l'essence. Et donc, le clochard se met au-dessus et se met à déverser de l'essence sur la bête. Il y a un réflexe très bizarre, c'est qu'elle l'avale,
oui,
l'essence.
Ça. Mais ça aurait été trop drôle, c'est que parce qu'il y a tous les trucs, le mec rate son lancer de cocktail Molotov, et puis bon, on se rend compte, tout conduit au clochard qui a versé l'essence et tout ça pour qu'après on l'enflamme. Ça aurait été trop drôle qu'il tourne la caméra et que c'est le mec qui est en train de pisser ou de vomir en mode gros clochard dégueulasse.
Non, mais, c'est juste un clochard, de toute façon.
Mais l'essence, là. Ferme ta gueule, qu'est-ce que tu racontes?
Et en effet, Raph vient de vous spoiler, puisque le tonton rate ses lancers de cocktail Molotov. Et donc, en fait, on va pas pouvoir faire brûler la bête. Sauf que...
La tata récupère une braise sur une flèche. Elle a le temps de bien viser. Et elle tire sur la bête qui prend... feu.
Ou alors, elle tire où sur la bête? Elle tire dans l'œil. Enfin, je vais voir, complètement utile. La bête est entièrement aspergée. Attends, je peux la voir dans l'œil.
C'est
tu vas voir,
qui,
c'est hyper stylé.
Tire dans l'œil, déjà. Ah, ben non, mais Ulysse, le cyclope. Excusez-moi.
Est-ce qu'à nouveau, on serait pas dans un
truc mythologique? Donc voilà, elle prend bien son temps, elle le shoot dans l'œil. La bête prend feu. On sent que ça lui.
Elle est en train de mourir.
Et elle voit l'eau, elle dit, je vais sauter dedans pour m'éteindre. Mais là, qu'est-ce qui se passe?
Elle le dit d'ailleurs.
Elle le dit, ouais.
Vous
êtes tous des sistres!
Elle se dépêche pour aller se jeter dans l'eau, sauf que là, Gangduk s'est fait lobotomiser, qui est devenu une sorte de Captain américain, formé par les Américains, et est en train de devenir un super-héros, et il embroche la bête.
Omae wa moshinderu, nani?
Nani?
Il plante la bête, il la tue sur place, la bête est morte.
Dans la bouche.
Comme Ulysse d'ailleurs.
Mais alors du coup, c'est la fin de ce monstre, et on a un petit épilogue sur...
Sur Gangdu qui a en fait adopté le petit garçon.
Voilà.
Puisque garçon quand vous sauvez un petit garçon, vous avez le droit de l'adopter. N'oubliez pas.
C'est marqué dans la loi.
Gangdu vit désormais avec le petit garçon dans le snack.
Et bah là on a un peu le dénouement formel, c'est-à-dire que bah c'est à la tribune de l'ONU, t'as un Américain qui dit oui en fait il y avait pas de virus, tout ça c'est un problème de mésinformation. Et Gangju dit oh, on était à la télé, on s'en fout.
On bat les couilles. Voilà.
Et c'est pas mal parce qu'à le côté bon on est un peu passé à autre chose.
Et il y a un plan ensuite large de la maison, c'est sous la neige. Mmh. Qui en fait illuminé juste par le.
Ça peut penser au parapluie.
Et en même temps super inquiétante parce que on voit rien de ce qui se passe à des kilomètres à la ronde. Donc
tu sais qu'il y a le fleuve derrière. En
ils
plus.
Sont seuls au monde et enfin la menace elle est peut-être encore présente ou pas.
Putain, tu nous as jamais dit que tu chantais aussi bien. Puis en coréen, en plus, tu maîtrises de ouf.
Je sais, merci.
T'as pris des cours et tout.
Cécile, qu'est-ce que t'en as pensé de ce beau film, du coup?
Bah, je l'avais déjà dit au début.
Couillon.
Bah, bon, ça t'a plu. C'était l'heure est grave, ouais, merci
écoutez,
beaucoup.
S'il te plaît.
Tu le remets?
Voir minute 5. C'est
ça. Non, mais bon, un petit bilan peut-être, maintenant
bah,
qu'on a refait tout ce film.
Bah,
calmement,
aimé,
le bilan. Hein.
On se dépose...
En repensant chaque instant. Hein. Ouais. Paradis histoire d'antan comme si on avait
50 ans.
Et du coup, ça t'a plu?
Bah oui, ça m'a beaucoup plu. Je me suis beaucoup amusée. Après, c'est vrai que le film, au début, il est vraiment dans quelque chose d'un peu plus nuancé. Enfin, pas nuancé, mais qui joue plus avec la comédie et tout. Et qu'après, on passe vraiment dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Mais ça marche très bien. Et du coup, c'est pour ça que tu restes tout le temps accrochée. Et je suis restée accrochée jusqu'au bout. Et j'étais même très triste parce que je croyais pas que la petite fille, elle allait mourir.
Bah, moi, toi, ça m'a beaucoup plu. J'ai vraiment eu une connexion avec la manière dont ils ont parlé en coréen. Parce que du coup, je comprends vachement bien.
T'as pas mis les sous-titres en plus, toi.
Non, j'ai pas mis de sous-titres. Voilà. Mm. Donc moi, je pensais que c'était juste sur un petit parasite comme ça. Mais je savais pas qui était la fille de qui ou les frères. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font ensemble?
Ils ont tous les frères et sœurs, là, les 300 personnes qu'on voit à un moment.
Moi, j'ai cru que c'était une
Ils viennent tous de la même famille, non, ils se ressemblent tous.
J'ai cru que c'était l'histoire de garde, que c'était la maman qui récupérait. Bon, la maman, elle est un peu moche, hein, mais qui récupérait sa petite fille.
Tu l'as mis à l'envers, le film. Vrai, oui, tu voyais un mec qui avalait des os et qui en faisait des êtres humains.
Ta-da! Non, mais voilà, c'est quand même vachement bien. Et puis, bah, en termes de recommandations, moi, je.
C'est
qui...
affreux, mais je.
Non, s'appelle The Raid, voilà, que j'ai beaucoup. Le 1, c'est de l'action pure, et ça a été reconnu parce que c'est juste des films de baston très très beaux, très très bien faits. Mais le 2 a une histoire qui est, encore une fois, qui est avec ce truc que j'aime beaucoup dans ces films asiatiques, c'est qu'on n'a pas les repères qu'on a normalement dans nos films européens et occidentaux de manière générale. Donc je vous conseille d'aller voir The Raid 2, The Raid 1 tant qu'à faire, c'est très sympa à regarder.
Et en ce qui me concerne, bah déjà je voulais encore dire quelque chose sur le film, que je trouvais ça agréable aussi parce que ça pourrait partir en film d'anticipation où par exemple c'est tout le monde qui va être touché et tout, on va tous mourir et tout, ça part en couille avec tout le monde etc. Et en fait ça reste un enjeu qui est très localisé en fait sur la petite famille et c'est ça qui est archi agréable. Bon même s'il y a les Américains et tout. Mais,
non mais c'est vrai, on n'a jamais
voilà,
le point de vue de
tout. Ça part pas
en
grosse couille, enfin tu vois.
C'est toujours à leur échelle. Puis surtout c'est vraiment à l'échelle du pont quoi.
Ouais.
Même géographiquement ça va jamais à des kilomètres à la ronde.
Du coup t'as l'impression de vivre une odyssée intérieure, à l'intérieur d'une famille peut-être.
Entièrement d'accord avec toi.
Et aussi pour mes recommandations, du coup, bah allez voir tous les Miyazaki.
En
particulier le voyage de Chihiro.
Ah, oh, tu connais, c'est vachement bien ce film. Allez voir. Et toi Gaspard?
Et bah moi je ne redirai pas à quel point je trouve que ce film est un très 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 très, très grand film. En termes de recommandations, non bah je vous conseille juste de voir tout ce qu'a fait Bong Joon-ho.
Bang bang.
Principalement Memories of Murder qui est son chef-d'œuvre avec Mother aussi je pense. Le bon Mother, hein, ne vous trompez pas.
Vous ne pourrez pas, vous risquez de grosses déceptions aussi long.
On se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler cette fois-ci bande dessinée.
On va parler de Fables.
De John de La Fontaine et de Bill Willingham. Et on se retrouve dans un mois pour parler cinéma. Et logiquement, après avoir parlé coréen, on parlera de films américains.
Voilà, on va parler de la décadence impérialiste.
On parlera de Raging Bull, de Martin Scorsese. Un autre extraordinairement film. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager, à liker, continuez de mettre des petites étoiles sur iTunes. Vous êtes pour l'instant 9 à l'avoir fait.
Like pour ouais. Like, comme pour comme.
Merci à ma tata d'écouter toujours.
Merci tata, big up. Et puis merci à tous, bisous.
Oui, merci, bonne soirée.
Ciao.